Chapitre 2. Le chemin de fer qui relie Sauveterre à la ligne d'Orléans doit une légitime célébrité à une série de courbes absolument inutiles, mais qui sont comme un défi au bon sens et qui seraient le théâtre d'accidents quotidiens si l'on s'avisait de marcher à une vitesse de plus de 8 à 10 km à l'heure. La gare, toujours pour la plus grande commodité de messieurs les voyageurs, a été bâti à une bonne demi-lieue de la ville, sur l'emplacement des jardins de M. Thibault, le premier banquier de l'arrondissement. On y arrive par une jolie route, jalonnée d'auberges et de cabarets, lesquels, les jours de marché, s'emplissent de paysans qui, le verre à la main et la bouche pleine de protestations de bonne foi, cherchent à se voler à qui mieux mieux. Les jours ordinaires, même, cette route est assez fréquentée car le chemin de fer est devenu un but de promenade. On y va voir arriver ou partir les trains, dévisager les étrangers et aussi épiloguer sur les motifs connus ou secrets qui peuvent déterminer monsieur un tel ou madame une telle à se mettre en voyage. Il était 9h du matin lorsqu'approcha enfin de Sauveterre le train qui amenait la marquise de Boiscoran et maître Folga. La marquise était brisée des fatigues et des angoisses de cette nuit, passée tout entière à discuter les chances de salut de son fils, et d'autant plus anéantie que maître Folga s'était étudié à ne pas encourager ses espérances. C'est qu'il partageait, sans en avoir rien laissé paraître, les doutes de maître Chapelain. De même que le vieil avoué, le jeune avocat s'était dit qu'on n'arrête pas un homme tel que Jacques de Boiscoran sans les plus fortes raisons, sans avoir en main de ces preuves qui valent presque une certitude. Bientôt, le train ralentit sa marche.
« Pourvu, mon Dieu !» fit Madame de Boiscoran. « Pourvu que Denise et Monsieur de Chandoré aient eu l'idée d'envoyer une voiture par-devant de nous. »«
Pourquoi cela, madame ?» demanda maître Folga.
« Pour m'y jeter bien vite, monsieur, pour y dérober à tous les yeux ma douleur et mes larmes. »
Le jeune avocat secoua la tête. « C'est ce que vous garderez de faire, madame, dit-il, si j'ai sur vos actions quelque influence. » Elle le regardait d'un air surpris. « Je veux dire, insista-t-il, qu'il ne faut pas que vous paraissiez éviter les regards. Ce serait une faute immense, peut-être irréparable. Que penserait-on si l'on vous voyait désolée et en pleurs? On penserait que vous êtes sûre de la culpabilité de votre fils, et ceux qui doutent encore ne douteraient plus. Il vous faut, du premier coup, conquérir l'opinion, car elle est souveraine, madame, dans les petits pays surtout, où chacun vit sous le contrôle immédiat du voisin. L'opinion s'impose à tous, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle poursuit les jurés jusque dans la salle de leur délibération.
« C'est vrai, murmurait la marquise, ce n'est que trop vrai. »
« Donc, madame, au nom des intérêts les plus sacrés, faites appel à toute votre énergie, refoulez au plus profond de votre âme vos maternelles angoisses, séchez vos larmes et montrez à tous une confiance superbe. Que chacun, en vous apercevant, se dise « Non, une mère n'est pas ainsi quand son fils est coupable. » Madame de Boiscoran se redressa.
« Vous avez raison, monsieur, dit-elle, et je vous remercie. » Oui, c'est à moi de frapper l'opinion, et autant je souhaitais trouver la gare déserte, autant je désire maintenant qu'elle soit pleine de monde. Je vous ferai voir ce que peut une femme que soutient la pensée de son fils.
La marquise de Boiscoran n'était pas une femmelette. Tirant un peigne de son sac de voyage, elle répara le désordre de sa coiffure. En quelques gestes rapides, elle rétablit l'harmonie de sa toilette. Ses traits, grâce à une puissante projection de volonté, reprirent leur sérénité accoutumée. Elle contraignit sa bouche à sourire, sans qu'on discernât l'effort, et d'une voix d'un timbre pur et net,
« Regardez-moi, monsieur, dit-elle, puis-je paraître maintenant ?»
Le train s'arrêtait devant les bâtiments de la station. Maître Folga sauta légèrement à terre et, offrant la main à la marquise pour l'aider à descendre,
« Soyez satisfaite, madame, lui dit-il. Votre courage ne sera pas perdu. Tout Sauveterre doit être là. »
C'était plus qu'à moitié vrai. Dès la veille au soir, le bruit s'était répandu, semé par qui on ne le sait, que la mère de l'assassin, comme on disait déjà charitablement, arriverait par le train de 9h et chacun s'était bien promis à part soi de se trouver, par hasard, à la gare à son arrivée.
C'était une émotion à ne pas négliger dans une localité où la conversation vit 3 jours sur la dernière robe arborée par la sous-préfète. De l'impression de Madame de Boiscoran, en se trouvant en face de tant de monde, nul ne s'était inquiété ni soucié. C'est qu'à Sauveterre, la curiosité a du moins cette qualité de n'être pas hypocrite. On y est indiscret, naïvement et sans la moindre pudeur. On s'y plante carrément devant vous et, les yeux dans vos yeux, on s'efforce de démêler le secret de votre joie ou de votre douleur. Il est vrai d'ajouter que les esprits étaient fort montés contre Jacques de Boiscoran. S'il n'y eut à sa charge que la destruction du Valpinçon et les coups de fusil tirés à M. de Clodieuse, ce n'eût été que peu de choses. Mais l'incendie avait eu des conséquences épouvantables. 2 hommes y avaient péri et 2 autres y avaient été blessés assez grièvement pour qu'on les crût en danger de mort. La veille, on avait vu un convoi sinistre traverser la rue nationale. Dans une charrette recouverte d'un drap et près de laquelle marchaient 2 prêtres, on rapportait les restes carbonisés et n'ayant plus forme humaine de Bolton, le tambour, et du pauvre Guillebeau. Dans une voiture qui suivait étaient les 2 blessés, l'un le gendarme, impassible, l'autre le fermier, poussant des cris déchirants. Toute la ville avait pu voir la veuve de Guillebeau se rendre chez le maire, portant entre ses bras son dernier enfant et traînant, pendus à ses jupes, les 4 autres, dont l'aîné n'avait pas 12 ans. Attribuant tous ses malheurs à Jacques, les gens le chargeaient de malédictions et songeaient peut-être à les faire remonter en muet jusqu'à sa mère, jusqu'à la marquise de Boiscoran. « La voilà ! La voilà ! » murmura-t-on dans la foule quand elle parut sur le seuil de la gare, donnant le bras à Maître Folga. Seulement, on ne dit que cela, tant on était surpris de l'assurance de son maintien. 2 courants aussitôt divisèrent l'opinion. « Elle a dû touper !» pensaient les uns. Et les autres, « Elle est sûre de l'innocence de son fils. » Elle avait, en tout cas, assez de sang-froid pour discerner l'impression qu'elle produisait et combien elle avait eu raison de suivre les conseils de Maître Folga. Sa force en fut doublée, et, distinguant dans la foule quelques personnes de sa connaissance, elle s'avança vers elle, et, toujours souriante, « Eh bien, dit-elle, vous savez ce qui nous arrive, c'est inouï. Voici maintenant la liberté d'un homme tel que mon fils à la merci du premier soupçon saugrenu qui passera par la cervelle d'un juge. » J'ai appris la nouvelle hier soir par le télégraphe et j'accours avec monsieur, qui est un de nos amis et l'un des plus remarquables avocats de Paris. » Maître Folga fronçait les sourcils. Il eût voulu la marquise plus mesurée. Cependant, il ne pouvait se dispenser de la soutenir. « Ces messieurs du parquet, prononça-t-il d'un ton d'oracle, regretteront peut-être d'avoir été si prompts. » Heureusement, un jeune garçon, qui portait pour toute livrée une casquette à galons d'or, s'approcha de Madame de Boiscoran. « La voiture de Monsieur de Chandoré est là, dit-il, aux ordres de Madame la Marquise. » « Je suis à vous, mon petit ami, dit-elle au jeune garçon, et saluant les braves sauveterriens interloqués de son assurance. « Excusez-moi de vous quitter si brusquement, dit-elle, mais Monsieur de Chandoré m'attend. » « J'espère d'ailleurs avoir, cet après-midi même, le plaisir de vous rendre visite au bras de mon fils. » La maison de Chandoré, pour parler comme à Sauveterre, est bâtie de l'autre côté de la place du Marché Neuf, tout au sommet de la rue de la Rampe, une rue qui n'est guère plus praticable qu'un escalier et dont M. Sénéchal, le maire, ne cesse de demander la rectification au conseil municipal qui ne se lasse pas de la lui refuser. C'est une construction toute moderne, gauche, massive et flanquée d'une prétentieuse tourelle à toit pointu que le radical docteur Seignebos appelle une perpétuelle menace du système féodal. Il est certain que les Chandorés affichaient autrefois de hautes prétentions nobilières, le dédain profond de quiconque n'avait pas eu des ancêtres aux croisades et la haine de toutes les idées qui datent de la Révolution. Mais s'ils n'avaient jamais été redoutables, ils avaient depuis de longues années cessé de l'être. De cette grande famille, une des plus nombreuses de Saint-Onge et des plus puissantes, il ne restait plus qu'un vieillard, le baron de Chandoré, et une enfant, sa petite-fille, la fiancée de Jacques de Boiscoran. Denise était orpheline. Elle n'avait pas 3 ans lorsqu'à moins de 5 mois d'intervalle, elle perdit son père, tué en duel, à la suite d'une discussion futile, et sa mère, une demoiselle de Lavarande, qui n'eut pas l'énergie de survivre à l'homme qu'elle avait aimé. Ce fut, certes pour l'enfant, un immense malheur. Mais ni les soins ni la tendresse ne lui manquèrent. Sur elle seule, son grand-père reporta toutes ses affections et toutes ses espérances, et les deux sœurs de sa mère, les demoiselles de Lavarande, déjà d'un certain âge, prirent la résolution définitive de ne jamais se marier, afin de se consacrer plus exclusivement à leur nièce. Dès cette époque, les deux bonnes demoiselles avaient demandé à M. de Chandoré à venir demeurer avec lui. Il avait rejeté bien loin leur proposition, disant que, sa petite fille étant à lui seul, il prétendait, sapre jeu, la garder pour lui seul. Il trouvait déjà bien beau, ajoutait-il, de permettre aux demoiselles de Lavarande de s'occuper de Denise et de passer avec elle toutes les journées. De ce différend devait naître, et naquit en effet, entre les tantes et le grand-père, une rivalité qui se traduisit par les plus étonnantes exagérations. Ce fut à qui capterait, et dame, par n'importe quel moyen, la première place dans l'affection de la petite fille, à qui déroberait une de ses caresses ou achèterait le plus cher un de ses sourires. À 5 ans, Denise avait eu tous les joujoux qui ont été inventés. À 10 ans, elle était rassasiée de robes et ne savait plus où mettre ses bijoux. Du soir au lendemain, pour ainsi dire, on avait vu se métamorphoser M. de Chandoré. Brusque, sévère et dur, il avait, sans transition, tourné au papa gâteau. Il avait éteint l'éclat métallique de ses yeux, fixé sur ses lèvres un perpétuel sourire et donné à sa voix ces inflexions mignardes que prennent les nourrices. On ne rencontrait que lui par les rues, en course pour sa petite fille, trottant de la boutique du pâtissier au magasin du marchand de jouets. Il invitait les petites amies, organisait des dinettes, poussait le cerceau ou le volant, et même, au besoin, menait les rondes. Denise fronçait-elle le sourcil, il tressautait. Toussait elle, il devenait tout pâle. Elle fut malade une fois, elle eut la rougeole. Il resta 12 nuits sans se coucher et fit venir de Paris des médecins qui lui rirent au nez. Eh bien, les demoiselles de Lavarande trouvaient encore le moyen de dépasser les folies de M. de Chandoré. Certes, si Denise apprit quelque chose, c'est bien parce qu'elle le voulut absolument, tant au moindre signe d'impatience, elles étaient disposées à congédier le professeur d'écriture ou la maîtresse de piano. C'est en haussant les épaules que Sauveterre assistait à ce spectacle. « Quelle éducation pitoyable !» disaient les dames de la société. « On n'a pas idée d'une faiblesse pareille. C'est un joli service qu'on rend à cet enfant. » Il est sûr que tant et de si incroyables gâteries, cette aveugle soumission et ces adorations perpétuelles couraient grand risque de faire de Denise la plus désagréable petite personne qui se pût voir. Pas du tout. Il est de ces naturels si heureux que rien ne saurait les pervertir. Et d'ailleurs, elle fut peut-être préservée du danger par son excès même. Plus âgée, elle disait en riant « Grand-père Chandoré, tante Lavarande et moi, nous faisons tout ce que je veux. » Ce n'était là qu'une plaisanterie. Jamais jeune fille ne récompensa, par des qualités si rares et si exquises, de plus pures affections. Elle vivait donc heureuse et insouciante, et elle venait d'avoir 17 ans lorsqu'arriva le grand événement de sa vie. Monsieur de Chandoré, ayant un matin rencontré Jacques de Boiscoran, dont l'oncle avait été son ami, l'invita à dîner. Jacques accepta l'invitation, il vint. Mademoiselle Denise le vit et l'aima. De ce moment, et pour la première fois, elle eut un secret que ne connurent ni grand-père Chandoré, ni tante Lavarande, et pendant 2 ans, ses fleurs et ses oiseaux furent les seuls confidents de cet amour qui grandissait au fond de son âme, doux comme le rêve, idéalisé par l'absence et poétisé par le souvenir. Car Jacques fut 2 ans sans voir. Mais aussi, le jour où il vit clair, étourdi de son bonheur, ébloui des perspectives qui s'offraient à lui, il sentit que sa destinée était fixée. Aussi n'hésita-t-il pas. Et à moins d'un mois de là, son père, le marquis de Boiscoran, faisait le voyage de Sauveterre pour demander la main de Mademoiselle Denise. Ah, ce fut un rude coup pour grand-père Chandoré. Certes, il n'avait pas été sans songer souvent au mariage de sa petite fille, sans en parler quelquefois, sans lui dire à elle-même qu'il se faisait vieux et qu'il se sentirait soulagé d'une grosse inquiétude quand il aurait trouvé un bon mari. Mais il parlait de cela comme d'une chose lointaine, comme il parlait de mourir, par exemple. La démarche de M. de Boiscoran l'éclaira sur ses véritables sentiments. La pensée de donner Denise, de la voir lui préférant un homme, d'abord, puis des enfants qu'elle aurait de cet homme, lui fit horreur. Pour bien peu, il eut jeté dehors l'ambassadeur. Cependant, il se contraignit et répondit qu'il ne pouvait rien prendre sur lui et qu'il lui fallait consulter sa petite fille. Il gardait encore l'espoir qu'elle repousserait cette demande. Pauvre grand-père, au premier mot qu'il hasarda, « Quel bonheur !» s'écria la jeune fille, « mais je m'y attendais !» Sans doute pour cacher une larme qui jaillit brûlante de ses yeux, Monsieur de Chandoré baissa la tête. « Ce mariage se fera donc » murmura-t-il. Déjà un peu consolé par la joie qu'il avait vue briller dans les yeux de sa petite fille, il en était à se reprocher son féroce égoïsme et à se gourmander de ne pas s'estimer très heureux lorsque Denise était si contente. Jacques avait donc été admis à faire officiellement sa cour, et l'avant-veille de l'incendie du Val-Pinson, après une longue délibération, où l'on avait calculé le temps strictement nécessaire aux emplettes et à l'achèvement du trousseau, le jour de la noce avait été irrévocablement fixé. Ainsi, c'est en plein bonheur que Mademoiselle Denise fut frappée, lorsqu'elle apprit en même temps de quel crime on accusait Jacques de Boiscoran et son arrestation. Foudroyée d'abord, elle était restée près de 10 minutes sans connaissance entre les bras de ses tantes et de son grand-père épouvanté. Mais dès qu'elle revint à elle, « Suis-je donc folle ? » s'écria-t-elle, « de m'émouvoir ainsi ? N'est-il pas évident qu'il est innocent ?» C'est alors qu'elle avait adressé une dépêche au marquis de Boiscoran, comprenant bien qu'avant de rien tenter, il était indispensable de s'entendre avec la famille de Jacques. Puis elle avait demandé qu'on la laissât seule, et sa nuit s'était passée à compter les minutes qui la séparaient encore de l'heure où arrivait le train de Paris. Dès 8 heures, elle descendit elle-même, donner au domestique l'ordre d'atteler et de partir pour attendre Madame de Boiscoran à la gare, lui recommandant surtout de revenir bride abattue. Elle alla ensuite s'établir dans le salon où se trouvaient déjà ses tantes et son grand-père. Il lui parlait, mais son attention était ailleurs. Bientôt, elle entendit une voiture remonter au galop la rue de la Rampe et s'arrêter devant la maison. Elle se dressa alors et s'élança dans le vestibule en s'écriant « Voici la mère de Jacques !»